Comme chaque semaine, nous allons retrouver Monseigneur Jean-Marc Mica, l'évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, au micro d'Anne-Rose Jankovic. Mais juste avant, je vous propose d'écouter la réaction de Monseigneur Mica suite à l'élection du pape Léon XIV au micro de Francky Guéret.
Alors, je sais qui il était, je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Il y a un peu plus d'un an et demi qu'il est préfet du dicastère en charge des évêques, mais j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer encore, et voilà. Ma réaction, immédiatement, c'est que je me réjouis que le conclave ait été assez bref, finalement, et ça dit l'importance des congrégations générales qui le précèdent, évidemment, de toutes les discussions, etc. Et je me réjouis qu'il n'ait pas été difficile pour les cardinaux de s'entendre sur un nom.
Alors hier, dans sa première prise de parole, il a beaucoup parlé de paix, comme si déjà la paix allait être le fil conducteur de son pontificat, comme si en tout cas c'était sa préoccupation première. Qu'est-ce que cela vous a inspiré? Est-ce que comme évêque, comme pasteur, vous vous y êtes retrouvé dans ces mots?
Depuis 3 ans que je suis évêque, chaque célébration de la messe commence par la salutation qu'il a reprise pour commencer son pontificat, la paix soit avec vous. C'est la salutation du Christ ressuscité aux apôtres réunis au Cénacle, joyeux de le savoir ressuscité, mais encore effrayés dans l'attente de l'Esprit pour partir, oser témoigner de cette résurrection, qu'il ait commencé par cette salutation et le commentaire de cette salutation me touche profondément. En effet, il me semble que un des messages clés de l'Évangile que les chrétiens portent pour le monde, c'est précisément la bonne nouvelle de la paix pour tous. Et je suis très très heureux qu'il ait commencé son pontificat de cette façon. Évidemment, c'est un des enjeux majeurs de notre temps, et l'Église a son mot à dire par rapport à ce qu'elle porte dans ce temps-là précisément.
Alors la même question qu'à Monseigneur Lacombe, qu'on avait il y a quelques instants sur notre antenne, on commente beaucoup sa nationalité américaine. Est-ce que la nationalité et la culture du Saint-Père sont vraiment des facteurs importants qui pourraient influencer la dimension pastorale, voire même spirituelle de sa mission?
Alors je ne sais pas ce que vous a répondu Monseigneur Lacombe, mais je pense qu'on a tort de focaliser sur sa nationalité, sur la culture, oui, son parcours humain, ses origines, son parcours de foi, son parcours religieux, son expérience acquise, donc tout ce qui fait une culture. Tout cela compte évidemment de manière importante dans ce que le Seigneur fera avec et ce que lui, dans sa liberté, a fait et fera avec. La nationalité, à mon avis, est quelque chose de beaucoup moins important dès lors qu'une fois qu'il est au service de l'Église. Notre patrie, c'est le ciel, dit saint Paul, et je crois que cette identité-là transcende toutes les autres identités particulières, même si celles-ci sont importantes, évidemment, parce que nous sommes des êtres incarnés, y compris dans un pays, dans une culture. Mais son expérience, sa vie, sa mission, et puis ce qui lui incombe désormais, le mettent bien au-dessus de cette particularité-là, en tout cas.
Alors, le pape Léon XIV est un augustinien, il l'a bien redit hier lors de sa première allocution. Alors, à quoi doit-on s'attendre? Ou pour poser la question un peu directement, quel est le style ou la sensibilité des augustiniens?
Alors, voilà, lui-même a donné une clé lorsqu'il a cité saint Augustin à proprement parler, c'est-à-dire cette phrase bien célèbre « Avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque ». Il me semble que, au-delà de la particularité des augustiniens comme tels, alors je ne connais pas sa famille religieuse augustinienne en particulier, mais la référence à saint Augustin me paraît extrêmement importante, et il a lui-même choisi de colorer cette identité augustinienne par cette citation de saint Augustin qui augure d'un style de pontificat qui s'inscrit sans aucun doute dans le droit fil de ce qu'a été le pape François, de ce qu'ont été les prédécesseurs du pape François, c'est-à-dire un homme de Dieu, un homme de foi, un chrétien, mais qui assume d'être aussi le pasteur de ses frères. Voilà. Et donc cette double appartenance qui identifiait Saint-Augustin et sans doute ses fils augustiniens va marquer sans aucun doute son pontificat comme il marque sa personnalité, sa vocation depuis toujours.
Dans le parcours du cardinal Prévost, désormais pape Léon XIV, quels sont ses points forts?
Eh bien, je pense, son expérience acquise à la fois comme missionnaire dans un pays du Sud, au Pérou, visiblement une expérience qu'il a aimée, qu'il a marquée, puisque j'ai été touché par le fait qu'hier soir, il tienne à saluer les gens de son ancien diocèse. Voilà, il y a un lien qui est tissé lorsqu'on est nommé évêque d'un peuple et d'un diocèse, et ce lien existe pour toujours. Et donc, voilà, je pense que ça l'a marqué profondément. De même que l'expérience du gouvernement, aussi bien de son institut augustinien que d'un diocèse, je pense que ce sont des éléments clés de son expérience. Et évidemment, depuis 2 ans, le fait de présider le dicastère qui a en charge de discerner, appeler, choisir les évêques pour les proposer la nomination du Saint-Père, je pense que ça aussi, c'est une expérience qui le prépare parfaitement à sa nouvelle mission.
Alors maintenant, en tant qu'évêque de Tarbes-et-Lourdes, qu'attendez-vous du pape? Ou d'abord, attendez-vous quelque chose de particulier, mis à part peut-être qu'il vienne au sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes?
Évidemment, le moment venu, je ne manquerai pas de lui adresser cette invitation, mais j'attends du Saint-Père ce que je pense tout catholique est en droit d'attendre du successeur de Pierre, et ce que tous les pasteurs de l'Église et les évêques en particulier attendent de lui, c'est-à-dire qu'il serve notre famille et l'unité dans cette famille, l'unité de cette famille, pour qu'elle témoigne vraiment du Christ sur les chemins de l'histoire, sur les chemins de la vie, dans la société, le monde d'aujourd'hui, avec tous les défis qui sont là. Je suis pour ma part très très marqué par ce verset, cette prière de Jésus au chapitre 17 de l'évangile de Jean, en forme testamentaire avant son arrestation et sa crucifixion. Qu'il soit un, demande-t-il au Père à propos de ses disciples, afin que le monde croie. Qu'il soit un, afin que le monde croie. Il me semble que ce que j'attends de lui, c'est qu'il nous aide nous-mêmes à être ces pasteurs de l'Église qui servent son unité, afin que le monde croie. Pour le reste, toutes nos stratégies, organisations, réorganisations, comme c'est le cas pour mon diocèse en ce moment, ne serviront strictement à rien si nous sommes divisés. Et donc, j'attends pour ma part du Saint-Père qu'il nous aide à cette unité, qu'il ne soit pas clivant dans ses décisions, dans sa manière d'être et de faire, sans être naïf, mais qu'il nous aide à cette unité, à construire cette unité toujours.
Alors nous attendons beaucoup effectivement du Saint-Père, mais lui aussi a besoin de nous. Outre la prière, comment les catholiques, et en particulier ceux de votre diocèse, peuvent-ils manifester au pape leur soutien? Comment accompagne-t-on d'ailleurs un pape quand on vit dans les Hautes-Pyrénées?
Bien comme on accompagne, enfin le but c'est pas d'accompagner le pape, c'est de se laisser accompagner par lui. Et c'est évidemment de le soutenir dans la prière comme on le fait à chaque Eucharistie au minimum. Mais c'est surtout de l'accueillir comme étant vraiment le successeur de Pierre, non pas en fonction de nos catégories, sensibilités, où on le valide comme pape quand il dit les choses que l'on aime entendre, et puis on l'invalide quand il dit des choses que l'on n'aime pas entendre, mais l'accueillir dans la charge qui est la sienne, la mission qui est la sienne, et accepter d'entrer dans un processus de conversion permanente en étant docile à l'enseignement des pasteurs que le Seigneur et que l'Église nous donnent. Voilà, c'est un principe général et je pense que c'est cela qui sert l'unité aussi, c'est que chacun accepte de bouger dans ses positions, quelque nature qu'elle soit, pour construire cette unité autour du Christ et seulement du Christ.
Eh bien, merci, Monseigneur Mika, pour vos réactions à l'élection de ce nouveau pape. J'en profite pour donner quelques rendez-vous de votre diocèse le jeudi 15 mai à 18 h pour une vêpe d'action de grâce pour l'élection du pape. C'est bien ça, je me trompe pas?
C'est bien ça, la
Les infos
cathédrale
sont bonnes?
Notre-Dame de la Cène à Tarbes.
Et il y a un Pelé à Rome qui est organisé du 23 au 27 juin. Il reste beaucoup de places, apparemment. Il aurait
Quelques places,
quelques
4-5
places, tout à
places. Il
fait.
reste 4-5 places sur les 130 offertes.
Voilà, donc dépêchez-vous si vous voulez participer à ce Pelé.
Voilà, à l'instant, vous venez d'entendre donc la réaction de Monseigneur Mika, l'évêque du diocèse de Tarbes-et-Lourdes, au micro de Francky Guéret. Je vous propose maintenant de retrouver la chronique hebdomadaire en compagnie d'Anne-Rose Jankovic, chronique enregistrée en amont de l'élection du pape Léon XIV.
Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
C'est une vraie joie de vous retrouver en ce début du mois de mai et après la très belle journée que nous avons vécue tous ensemble au sanctuaire Notre-Dame de Pietate. C'était dimanche dernier, le 4 mai. C'était le premier rendez-vous d'une longue série de rendez-vous dans les sanctuaires mariaux pour inscrire le diocèse et les catholiques du diocèse vraiment dans ce jubilé de l'espérance. Je dis une très belle journée, mais peut-être que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu ce pèlerinage. C'était vraiment un pèlerinage.
Oui, c'était un pèlerinage et marqué d'ailleurs par trois routes de marcheurs qui, au petit matin, contrairement aux prévisions météo, étaient très ensoleillées, se sont mis en route pour converger vers le sanctuaire de Pietà. Et voilà, à l'arrivée, donc trois routes avec le bon groupe de marcheurs, de tous âges, vraiment de tous âges. Et à l'arrivée, ils étaient accueillis par une équipe locale à Notre-Dame de Pietà, qui depuis des jours et des jours est à pied d'œuvre, qui avait monté un petit chapiteau, faisait griller des saucisses, enfin, etc., pour offrir à ceux qui arrivaient un complément à leur pique-nique prévu. Tout ça dans vraiment une très très bonne atmosphère, très fraternelle, très simple, très directe, des familles, des personnes isolées qui étaient là, soit qui sont venues directement, soit en marchant avec les autres. Et puis, après un bon temps de partage fraternel, l'après-midi a été dédié davantage à la démarche de pèlerinage à proprement parler, ou spirituel, de prière pour le diocèse. Après une présentation du sanctuaire par quelqu'un localement qui a montré de belles photos, raconté l'histoire, etc., un temps de chapelet de la miséricorde animé par le frère Joseph. Les prêtres étaient là, à disposition pour confesser ce qu'ils souhaitaient, et j'ai pu observer que bon nombre de pèlerins ont fait la démarche. Et puis une très 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 belle célébration. Tout ça encore une fois, dans l'action de grâce de passer à travers les gouttes, on a évité l'orage qui grondait mais qui nous a épargnés. Et voilà, et je suis très très heureux que ce premier rendez-vous dans un des sanctuaires mariaux du diocèse, se soit passé de cette façon, dans cette atmosphère, vraiment à la fois d'unité. Il y avait des gens de toute sensibilité, de toute génération, de divers lieux du diocèse, de beaucoup d'endroits du diocèse différents. Et voilà, qui étaient là, tout le monde avec le sourire, beaucoup de joie. Et c'est exactement ce que je veux, à travers cette initiative, de nous donner plusieurs fois rendez-vous dans les sanctuaires mariaux du diocèse. C'est bien des pèlerinages diocésains à chaque fois. Et donc, le prochain rendez-vous du même type, c'est à Notre-Dame de Garaison, début juillet. Entre les deux, il y aura eu le pèlerinage à Rome pour ceux qui s'y sont inscrits. Et puis ensuite, Puellaüen et Asse et Lourdes, finalement, au mois d'octobre.
Alors, je reste sur ce sujet-là parce que dimanche 4 mai, à Pietate, justement, le micro de Radio Présence se promenait et parmi l'équipe qui organisait cette journée, dont vous avez salué le travail, il y avait une personne qui a expliqué au micro de Radio Présence que quand vous avez lancé cette idée, elle s'est dit, oh non mais c'est pas possible, quelle folie, quel travail, à quoi bon toute l'énergie qu'on va dépenser. Et puis finalement, eh bien, en milieu de journée, voilà, voyant les marcheurs arriver, s'est dit, oh mais qu'est-ce qu'il a eu raison de nous bousculer. C'est ça aussi votre idée en tant que pasteur, de bousculer un petit peu les gens en disant, bah, allez-y, retroussez-vous les manches, accueillez, allez de sanctuaire en sanctuaire. Vous avez ce souci-là qu'on se bouge un petit peu?
Vous savez, la foi, c'est à la fois quelque chose dont on essaye de comprendre les contours et de s'en expliquer de manière rationnelle, intellectuelle. On donne des explications, on fait des catéchèses. Tout ça est nécessaire. Mais c'est aussi une expérience pratique et concrète. Et la foi, c'est croire que l'invisible est plus grand que le visible. Le visible, c'est nos ressources, c'est nos forces, c'est nos moyens. Et bien souvent, on envisage les choses à partir de là et de là seulement. Et là, on a de quoi être en effet soucieux, inquiet, pessimiste, tout ce qu'on veut. La foi, c'est de croire que l'invisible est plus grand que le visible. Alors l'invisible, ben, c'est par définition ce qu'on ne voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, c'est ce que Dieu nous donne. Nous, on fournit ce qu'on peut, nos 5 pains et nos 2 poissons, j'insiste régulièrement là-dessus. Et lui, il fait le reste, il multiplie tout ça. Et c'est bien beau de le dire, c'est bien beau de le lire dans l'Évangile et de faire de belles homélies à ce sujet, mais d'en faire l'expérience remplace toutes les explications. Et vivre des moments comme celui qu'on a vécu à Pietate dimanche nous donne de faire ce type d'expérience. Et ça, ça évangélise plus que tout.
Alors, le week-end dernier, c'était aussi le début de la saison des confirmations, comme je dis souvent. Vous étiez à Lourdes, à l'église paroissiale de Lourdes, samedi soir, pour confirmer des jeunes des établissements Père Amal Saint-Joseph et puis Sarsan, 2 établissements lourdais. Racontez-nous un petit peu ce moment, ces premières confirmations. Dans une église, il faut quand même faire ce petit clin d'œil, qui va bientôt dévoiler une partie des travaux achevés.
J'ai passé une partie de l'après-midi à lire les lettres des confirmants pour préparer l'homélie de la célébration. Et j'ai commencé la célébration en citant une ou 2 lettres et en disant combien ça faisait du bien de se retrouver à la maison, c'est-à-dire dans l'église paroissiale qui était fermée jusque-là. Et depuis que je suis là, les confirmations de Lourdes étaient célébrées dans une des églises ou basiliques du sanctuaire. De revenir dans l'église... qui déjà est accessible, grande, belle, faisait plaisir. Et puis, en effet, d'ici quelques jours, seront dévoilées des choses qui sont encore cachées par de grands rideaux, qui est l'aménagement du fond de l'arrière-chœur de l'église, là où autrefois se trouvait le grand orgue à tuyaux, qui maintenant est au-dessus du porche d'entrée. Et c'est un beau moment, je trouve, de revenir dans cette église paroissiale, qui est une très très belle église du diocèse, très vaste, après une campagne de travaux extrêmement ambitieuse. Et parce que c'est toujours pareil, on tire un fil et puis d'autres suivent, on se rend compte que la structure est abîmée, qu'il faut remplacer ceci ou cela, alors que ce n'était pas prévu. Bref, ça fait 7 ans que l'église était fermée, ou quasiment, et qu'elle réouvre désormais progressivement. Il reste encore des choses à parfaire, mais tout de même. Et de pouvoir célébrer la confirmation dans ce lieu, 52 jeunes ont célébré le sacrement de confirmation. C'était un très, très, très beau moment, là aussi. J'ai commencé la messe en citant des lettres de jeunes. Une m'écrit « Merci de m'avoir lu jusqu'au bout, d'avoir lu ma lettre jusqu'au bout ». Et puis l'autre « Merci d'avoir lu ma lettre et puis bon courage pour lire les autres ». Bon. Et je les ai rassurés en leur disant que c'était une vraie joie de lire leurs lettres, parce que tout jeunes de 3e qu'ils sont, garçons et filles, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de perles, à la fois humaines et spirituelles, dans ces lettres. Et les lire, j'entendais depuis toujours les évêques témoigner de cela, et maintenant j'en fais l'expérience, est une grande source de joie et puis d'espérance aussi, et ça tombe bien, en cette année jubilaire.
Ils en ont de l'espérance, ces jeunes ? C'est pour ça qu'ils demandent le sacrement de confirmation ?
Ils ont la foi, en tout cas. Ils ont une sensibilité spirituelle. Alors, tous ne sont pas à égalité, bien évidemment. Toutes les lettres ne se ressemblent pas. Mais quand même, je suis très, très touché par la foi profonde d'une grande majorité d'entre eux. Et puis, de la confiance avec laquelle ils écrivent ce qu'ils écrivent. Ils racontent leur histoire. Alors, c'est un schéma qui leur est proposé par l'animateur, de dire dans un premier point, tu te présentes, deuxième point, tu dis ce que tu as envie de faire de ta vie, et puis troisième point, ton parcours de foi, et puis pourquoi la confirmation. Bon, donc je retrouve le même plan de lettre en lettre, mais la manière dont ils honorent les points en question est très très différente, et je suis très touché de leur confiance, de ce qu'ils écrivent, et de leur attachement, oui, au Seigneur, et puis à la vie, puis à leur pays, puis à leur famille, et puis... Ah, c'est beau, quoi, c'est beau, franchement.
Voilà, on peut saluer aussi le travail des personnes qui sont mobilisées dans les aumôneries pour accompagner ces jeunes tout au long de l'année et les accompagner dans la préparation de ce sacrement de la confirmation. Alors, on reste avec les jeunes et on va aller en direction du village des jeunes où vous étiez aussi, je crois, dans les mêmes jours, samedi dernier également. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quelle occasion ?
C'était à la demande des responsables du village des jeunes, qui est depuis quelques années en très très grands travaux de mise à jour, de changement, d'amélioration, à la fois pour tenir compte des nouvelles sensibilités acquises par la société, par l'Église, à propos de la protection des mineurs, et donc réaménager les dortoirs, les sanitaires, etc., etc., et à faire ce genre de travaux, et puis de rafraîchissement, le village a vieilli, d'en profiter pour apporter de vraies améliorations, et notamment de créer une place du village, un terrain de sport, et un aménagement autour de la chapelle, un chemin d'accès direct au sanctuaire, etc. Tout cela a fait l'objet donc d'une bénédiction au cours d'une célébration préparée donc par l'équipe en charge de l'animation du village des jeunes, et où j'ai circulé dans tous les lieux, les tentes, les couloirs, les annexes, les bâtiments et les prairies pour asperger tout ça et voilà, confier dans une joyeuse promenade à travers le village à la miséricorde de Dieu pour une belle action de grâce pour ce qui se vit dans ce village, et puis lui confier la vie et la mission de ce lieu particulier du sanctuaire de Lourdes qui reprend vie, qui est très très sollicité, très apprécié des aumôneries, des groupes de scouts et de beaucoup 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 de gens dans le monde. Il y a une dimension l'été, juillet, août, extrêmement internationale dans ce village. Et vraiment, je suis très reconnaissant à l'équipe de ceux qui y servent, aussi bien chapelain et l'équipe de la pastorale des jeunes du sanctuaire que sur place au village, ceux qui y sont en permanence. Et c'est des gens formidables. Et voilà, un très beau moment pour confier cette pastorale des jeunes du sanctuaire à la miséricorde de Dieu et à la protection de la Vierge Marie.
Absolument. Merci beaucoup, Mgr Jean-Marc Mika, et à la semaine prochaine.
Bonne semaine à tous nos auditeurs.
Voilà, vous venez d'entendre donc l'interview hebdomadaire de Mgr Jean-Marc Mika, l'évêque du diocèse de Tarbes-Lourdes, micro d'Anne-Rose Jankovic. Alors, vous l'aurez compris, cette émission avait été enregistrée quelques jours avant l'élection du pape Léon XIV.